Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2013 et c'est l'épisode numéro 111. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle donc technologie, internet et gadgets, c'est-à-dire qu'on suit toute l'actualité, on écume tous les blogs et toutes les infos qui ressortent pendant deux semaines et puis on les passe au moulinet facilitateur qui vous facilite la compréhension. Ce moulinet s'appelle en partie Patrick Béja, c'est moi, je suis votre hôte et je suis ravi de vous accueillir et d'accueillir également les deux autres parties du moulinet, c'est-à-dire Benoît et Mike du podcast Niptech. J'allais dire Niptech, c'est bizarre Niptech. Comment allez-vous messieurs?
Merveilleusement bien, on est de plus en plus, en tout cas moi je suis de plus en plus heureux de participer à chaque fois, c'est un grand bonheur. Et puis 111, c'est un beau chiffre, oui, ça me fait plaisir d'être là pour un si beau chiffre.
Ah, ça j'y avais pas pensé en tout cas, oui merci, merci de nous inviter Patrick, ça fait plaisir. C'est clair que la dernière fois que je t'écoutais, c'était pas dans ton podcast français, mais sur This Week in Tech, c'est quoi, il y a deux semaines. Ouais. Et à chaque fois, je suis ébahi à quel point tu donnes des bons commentaires et en plus ton anglais. À chaque fois, je suis ébahi. Je me dis, ben, tu dois faire beaucoup de fans de la France, je pense toujours, aux États-Unis.
C'était pas préparé ça. Hein. Merci, c'est très gentil, Mike. C'est très gentil de ta part de dire tout ça, mais que les gens ne croient pas que... En fait, si, voilà, j'avoue. Je sais que vous êtes anglophone aussi. Je me doutais que vous enregistrez, que vous écouteriez This Week in Tech. Et donc, je vous ai invité pour que vous disiez des choses gentilles sur moi.
Non, mais je trouve génial parce que je pense que sur les Américains, ils sont souvent centrés sur eux-mêmes. Et je pense que quand il y a quelqu'un international, que ça soit toi, pour la France, ou j'en entends des fois des autres qui viennent d'Angleterre, je pense que ça aide beaucoup les Américains à comprendre la France, à comprendre ce qui se passe. Et puis, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde.
Ben, c'est vrai que, tu sais, bon, à côté de ça, une remarque peut-être sur le monde de la tech en général, on nous parle souvent du fait qu'il y a des anglicismes qu'on utilise un peu trop souvent dans ces émissions, même si encore une fois on essaye de se limiter, et puis surtout avec Jeff qui est là-bas dans la Silicon Valley. Mais j'ai aussi remarqué que parmi toutes ces émissions et tous ces blogs et toutes ces choses-là, il y a quelques Français qui apparaissent dans ces podcasts ou dans ces blogs. Tu as parlé de moi sur le réseau Twitter. Moi, j'y ai des amis, donc j'y apparais de temps en temps. Mais on a donc Jeff d'un autre côté qui est au cœur de l'écosystème VC, venture capitaliste là-bas. Il y a Loïc qui a quand même pas mal réussi finalement avec sa conférence. Bon, elle est plutôt centrée en Europe. Mais il vit au cœur de la Silicon Valley aussi. Il a une start-up là-bas qu'il a revendue il n'y a pas longtemps. Enfin, et peut-être que c'est parce que je suis français, mais je remarque qu'il y a, bon, c'est quelques pourcentages, hein, mais une véritable présence française dans cet écosystème. Et je ne vois pas un équivalent d'autres pays d'Europe. J'en avais parlé une ou deux fois dans cette émission. Mais c'est intéressant de remarquer que on se plaint souvent qu'on est trop franchouillard, et on a eu dans les commentaires de l'émission précédente des remarques sur ce terme qui est un petit peu négatif, c'est vrai. Mais pour tous les défauts qu'on peut avoir, mine de rien, je pense que hormis les pays anglophones, ça me surprendrait pas d'apprendre que la France est le pays le plus représenté dans ces univers. Donc c'était bon à signaler aussi.
Les autres ont moins besoin de s'exiler, c'est pour ça.
c'est la petite touche suisse. Non, mais pour défendre un peu la France, moi, je pense aussi que vous êtes pas mal en avant-garde sur le monde de l'Internet, aussi beaucoup dans l'e-commerce. Je crois que, franchement, la France est un pays où on l'utilise quand même beaucoup. Et je trouve que, voilà, ça veut dire que pas mal de boîtes sont sorties de là. Ben, ouais. Je pense toujours, mais à chaque fois que je me mets sur ma balance WeThing, je pense que c'est une balance française. Donc je suis là, ben voilà, on fait des beaux trucs en Europe. Et c'est vrai qu'aussi au niveau création des sites web, les sites web français en général sont très bons.
Bah, donc, c'est vrai qu'on a, on en parlait un petit peu il y a deux semaines, donc avec Jeff, quand on parlait de l'histoire Dailymotion Yahoo, sur laquelle on va pas repartir, mais il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants sur les commentaires de cet épisode. Donc, je vous invite, si vous avez écouté l'épisode et si vous vouliez aller un petit peu plus loin, à aller écouter, enfin, aller lire les commentaires sur cet épisode, qui étaient des discussions assez saines et toujours, ce qui me fait incroyablement plaisir, toujours très, très cordial. Mais c'est vrai que on a quand même, comme on le disait à ce moment-là, une véritable appétence pour ces choses, la chose technologique. Bon, ensuite, c'est pas toujours concrétisé sur les projets. Il y a parfois des réussites d'estime, mais pas d'immenses réussites, ou en tout cas pas assez. Et on va peut-être en parler de cette inadéquation qu'il y a parfois entre le monde un petit peu institutionnel et l'énergie bouillonnante qu'il y a un petit peu plus à la base. En France, et c'est vrai qu'il y a une scène geek technophile qui est très très active, et malheureusement, moi, à mon sens, ça se concrétise pas assez, mais elle est bien présente, ça c'est sûr. Tu voulais dire quelque chose, Benoît?
Non, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que j'avais suivi avec intérêt le débat sur le mot franchouillard. Ouais. C'est vrai, on sent quelque chose à fleur de peau. Mais ça, je trouve très intéressant. C'est vrai que de l'extérieur, on voit que la France a une capacité d'autocritique qui est excellente, hein, parce que ça permet justement d'aller trouver ces autres solutions peut-être que d'autres pays n'arriveraient pas à trouver. Par contre, il y a ce côté aussi destructeur qui empêche des fois d'avancer parce qu'on va justement trop chercher le côté négatif. Et vraiment, j'aime suivre ça parce que il y a ce côté, enfin, bien et mal qui positif et négatif. Et ça me fascine, je dois dire, de l'extérieur un petit peu.
Ben, c'est marrant parce que moi, le terme franchouillard, bien sûr, il est un petit peu péjoratif, mais je l'avais pas utilisé comme quelque chose de totalement péremptoire. Ça me paraissait presque, tu vois, un moyen de décrire les côtés un petit peu franchouillard, hein, les côtés un petit peu... Bon, ne repartons pas dans le débat, mais pour moi, c'était pas un terme horriblement négatif, et c'est vrai qu'il a été perçu comme tel par certaines personnes qui sont venues le dire dans les commentaires de l'émission, et on a eu une petite explication à ce sujet, donc si ça vous intéresse, encore une fois, allez voir les commentaires de l'émission. En attendant, on va plutôt parler de sujets un peu plus courants, c'est-à-dire Google I.O. et le rapport Lescure, qu'on va un petit peu disséquer. Donc, deux gros sujets aujourd'hui à discuter. Et on va commencer par Google, qui a fait, comme vous le savez bien sûr, sa conférence Google I.O., qui est la grande conférence pour les développeurs pour tous les produits Google, il y a une semaine environ. Et il y a eu la pièce principale, la pièce maîtresse de cette conférence, c'était évidemment la keynote, la présentation d'introduction de la conférence, qui a duré un bon 3h30 quand même, mais qui n'avait pas, c'était une conférence un petit peu, je veux pas dire bizarre, mais peut-être un peu inhabituelle, parce que il n'y a pas eu une grosse annonce. Généralement, ces conférences et surtout ces keynotes sont l'occasion d'annoncer un nouveau produit, une nouvelle version d'un OS ou ce genre de choses. Là, ça n'a pas été le cas. Mais on a eu tout plein de petites... C'est même pas vraiment des petites, mais plein de d'annonces un petit peu moins importantes, mais qui, prises en totalité, font quand même une masse imposante, quoi. Alors, on va les prendre une à une.
Peut-être une chose, Patrick.
Oui, bien sûr.
Où Google s'est un petit peu mis dans l'embarras, j'ai l'impression, parce que Google I/O, à la base, c'est un événement pour développeurs. Donc, c'est une conférence de développeurs qui n'est pas censée attirer tellement l'intérêt du public. Mais comme ils en ont fait aussi quelque chose de marketing en même temps, en essayant de copier un peu Apple, maintenant, ils se retrouvent entre les deux. Et quand ça redevient une conférence de développeurs, bien, on est un peu déçu. Moi, j'étais déçu, je dois le dire franchement.
C'est vrai.
Parce que il y a eu quand même Glasses l'année passée. Alors tu te dis, il faut faire mieux. On peut pas faire chaque année un truc qui change le paradigme.
Non, c'est sûr. Mais moi je m'attendais pas au, disons qu'au mieux, ce à quoi je m'attendais, c'était peut-être une nouvelle version de leur tablette Nexus 7 ou Nexus 10, enfin ce genre de choses. Et bon, en l'occurrence, on n'a même pas eu, mais c'était pas la fin du monde parce que il y a eu quand même beaucoup d'annonces et beaucoup de changements dans leur système. Partons sur ces sujets. La première chose, c'était une refonte assez importante de Google+, donc leur réseau social qui concurrence Facebook et Twitter, avec un accent mis sur la présentation très visuelle. Presque, on a plaisanté sur le fait que Google+ s'est transformé en Pinterest, pour ceux qui connaissent et qui utilisent Pinterest. Et ils ont vraiment transformé la chose avec une présentation qui est un peu plus proche de leurs applications mobiles et une interface avec des cartes où chaque mise à jour, chaque update est une carte sur laquelle on peut avoir d'une part énormément d'informations et qu'on peut même retourner pour avoir d'autres informations connexes. Genre, si on veut avoir plus d'informations sur un sujet ou un hashtag qui est inclus dans le message, on peut facilement en avoir au dos, entre guillemets, de la carte. Rapidement, Google+, la nouvelle version, ça vous plaît, ça vous plaît pas? Il y avait aussi toute une mise à jour de du système de photos, avec des photos automatiquement sélectionnées, très habilement d'ailleurs, pour présenter vos albums de manière un petit peu plus compacte, pour vous donner une vue d'ensemble de vos albums et qui sont sélectionnés, améliorés automatiquement. Ouais, ça vous plaît?
Je vais peut-être la prendre celle-là parce que je sais que Mike n'est pas du tout un utilisateur de Google+. Nous, on a un groupe Google+ qui fonctionne bien avec Niptech, hein. Rajoutez-nous, et on est tout le temps en train d'émettre plus Mike, voilà, et pas de réponse, donc c'est une plutôt bonne amélioration. Je trouve un peu plus difficile à lire, hein. Ils ont essayé de mettre plus de choses dans un espace, c'est un petit peu plus compliqué aussi. Par exemple, il y a des partie coulissante, hein, quand on veut avoir ses communautés, ça vient, ça part. C'est assez intéressant. Je trouve que il touille un petit peu un truc pour voir si ça peut bien marcher. C'est très incrémental aussi. J'ai pas vu des gens de ceux que je suivais ni se plaindre ni en dire du bien. Donc j'en conclus que au final c'était quelque chose d'assez neutre et pour ma part aussi j'y ai pas pensé après le tiens initial. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est peut-être l'intégration de Hangout comme outil unifié de communication. Ça c'est pas mal parce que c'est vrai que il y avait peut-être un petit peu des soucis à ce niveau-là.
Parlons-en. Oui, effectivement, le Google Plus, c'est un petit peu tiède. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se baladent, qui glissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Je pense qu'ils vont travailler dessus, ils vont incrémenter la chose.
Moi, je dirais une chose méchante. Je dirais personne n'en parle parce que personne n'utilise. C'est surtout ça.
Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai.
J'ai essayé. J'ai essayé. Je trouve que, en fait, pour Niptech, ça a bien joué parce que voilà, maintenant on a plusieurs centaines de membres dans la communauté qui postent des choses sur le Google Plus page, si on veut. Alors, je trouve intéressant. Mais moi, un troisième réseau social. Déjà, j'ai quitté plus ou moins Facebook. J'utilise beaucoup Twitter, mais un troisième, je vois pas l'intérêt. Alors maintenant, quand vous parler des photos. Moi, ce que je trouve intéressant, mais en même temps dommage de la part de Google, c'est que je sais qu'ils sont très très bons dans les photos puisque j'utilise moi-même Picasa Web, qui est l'outil de Google pour mettre en ligne ses photos et ses albums.
Qui va être remplacé par Google Plus Photo. Hein.
Alors, il va être clairement remplacé. Eh ben, moi, je trouve ça, c'est une super bonne idée parce que Picasa, c'est super utile. Moi, je l'ai personnellement utilisé pour les photos de vacances, de mariage, de choses comme ça. Et ça fonctionne incroyablement bien. On n'a pas envie de le mettre sur Facebook. On n'a pas envie de le mettre peut-être sur d'autres. Mais Picasa, moi, j'ai trouvé toujours génial.
Eh ben, j'encourage les gens qui nous écoutent à aller essayer la présentation. Si vous avez beaucoup de photos sur Picasa ou même les mettre sur Google Plus, ça vaut le coup parce que leur nouvelle présentation est assez efficace. Elle est bien foutue, c'est bien géré. Donc bon, sur ça c'est un bon point. Tu parlais Ben de la question des Hangouts qui sont en fait un petit peu différents des Hangouts de Google Plus d'origine, mais qui est en fait un nom qu'ils utilisent désormais pour leur service de messagerie unifiée, qui est une sorte de mélange entre Skype et Facebook Messenger et WhatsApp et toutes sortes de logiciels de ce type-là. Il y a donc la possibilité de créer de s'envoyer des messages, hein, tout simplement, comme un client de chat, de IM, de Instant Messaging, et d'avoir des appels vidéo à plusieurs, et d'avoir des groupes de messages, évidemment. Vous avez eu le temps de le tester. Moi, je l'ai testé un petit peu. Ça fonctionne. Je suis pas super fan des services de messagerie. Mais est-ce qu'il y avait un besoin d'un service de messagerie Google finalement? Est-ce que c'était nécessaire ou c'est un petit peu une annonce un peu bizarre de Google?
Ouais, là, Google a clairement besoin de faire du tri de nouveau. Ils aiment bien faire les ménages de printemps. On commence à avoir un problème de fragmentation dans leur offre qui va pas. Donc, je pense que c'est juste un pas vers le fait que Hangout devienne en fait le nom de la messagerie globale, parce que c'est vrai qu'il y avait Jito, enfin même Google
c'est ça,
Voice.
Ils ont supprimé Voice, Talk, et puis les anciens Hangouts aussi. Maintenant, il y en a plus qu'un.
Voilà, donc c'est un petit peu de mise en place de technologies qui finalement c'était les mêmes mais qui avaient juste des noms différents. Alors c'est vrai qu'ils disaient qu'ils avaient d'autres technologies pour Jito, que j'en suis pas forcément persuadé, mais enfin, en tout cas, ça me semble plus simple. Mais de nouveau, on reste dans la même veine un petit peu que la nouvelle précédente où on a quelque chose qui fait du sens mais qui est un petit peu de l'ordre, voilà, de la maintenance, quoi.
D'accord. Alors, oui, pardon. Vas-y, Mike.
Moi, je dois dire que je suis grand fan de Google Hangout. Hein. Depuis que nous, on l'utilise quand on fait Niptech, donc on l'utilise en live à plusieurs, et j'avoue que ça fonctionne incroyablement bien. On n'a jamais de problème. Limite, ça fonctionne mieux que Skype pour des conf calls ou autres, même pour le travail, hein, c'est à utiliser. Et je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, au niveau du chat de Google, c'est vrai que ça a toujours été un élément qu'on utilise, mais on l'utilise des fois dans le Gmail ou dans son... on ne l'a jamais utilisé, en tout cas personnellement, je n'ai jamais vu personne l'utiliser à l'extérieur comme une app séparée, un peu comme Facebook Chat ou comme, je ne sais pas, d'autres. Qui est...
Donc,
là, c'est assez drôle.
En l'occurrence, il y a des apps sur tous les appareils mobiles qui sont disponibles pour Hangouts aussi. Donc, ça fonctionne un petit peu comme on parlait de WhatsApp ou de iMessage ou etc. Donc, à terme, il devrait aussi y avoir une intégration des SMS d'une manière ou d'une autre. Donc, ça veut vraiment tout remplacer. Là encore, comme tu le disais, Ben, je pense que c'est une question de nettoyage de printemps. L'autre annonce, c'était Maps, une nouvelle version de Google Maps, qui est un des outils, je pense, que j'utilise le plus chez Google, et pourtant j'en utilise beaucoup, et en tout cas qui est le plus utile, même si je l'utilise pas tous les jours. Et la nouvelle version est assez sympa. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'utiliser, mais elle est assez sympa, et surtout, elle est... c'est la première mise à jour depuis hyper longtemps. C'est une mise à jour qui fait une place très très belle à la carte elle-même. L'interface disparaît complètement de la page. Enfin, disparaît peut-être pas, mais elle s'efface avec pour laisser place à la carte elle-même. Et puis, surtout, un truc qui est très intéressant, c'est que la carte s'adapte à vous. En fait, donc elle va s'adapter, elle va plutôt afficher des choses que vous avez recherchées, des sujets qui vous intéressent, ce genre de choses. De la même manière, en fait, que Google fait de la recherche, customise vos recherches parce qu'il commence à vous connaître. Là, Google va customiser vos cartes parce qu'il commence à vous connaître aussi. Il y a d'autres petites choses du genre, on peut regarder à l'intérieur des magasins. Il y a une intégration de Google Earth qui est complètement intégrée à la carte Google Maps. Il y a aussi une vue absolument incroyable qui est une vue quand on zoome vraiment complètement à l'extérieur quand on est en vue Earth. On a carrément là il y avait un moment magique dans la présentation, c'était que on a la Terre avec le cosmos derrière et que quand on regarde le côté de la Terre qui est dans la nuit, on voit les lumières, on voit vraiment la représentation de nuit de la partie qui est dans la nuit avec les lumières un petit peu partout. Et visiblement, les nuages sont rendus en temps réel aussi. Donc bon, ça c'est le côté pas hyper utile, mais qui nous fait un petit peu rêver. Mais au-delà de ça, la carte donc elle-même, les améliorations nécessaires là encore, un truc vraiment important ou une mise à jour nécessaire simplement.
Pour moi, c'est tellement un outil incroyable, Maps. À chaque fois que je vais à l'étranger, j'utilise Maps et j'ai utilisé Maps de Apple, mais je suis vite revenu à Google Maps qui fonctionne vraiment nickel. Et c'est vraiment un des outils que j'utilise le plus. Malheureusement, je l'utilise pas forcément sur mon Mac ou sur mon PC, sur le web, disons. Je l'utilise plutôt sur mon portable, sur mon smartphone, on va dire ça comme ça. Et donc, j'ai pas encore vu d'update de Google Maps, le nouveau. J'ai pas encore pu tester.
Et là, pendant
que tu parlais, j'ai été sur le site et on doit demander une petite invitation pour pouvoir tester. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment tellement utile, tellement incroyable que c'est vrai que si ça peut utiliser les mêmes requêtes que Google Now pour savoir un peu ce que je fais, puis savoir où je vais, et puis me faire des propositions, moi, je suis plutôt content.
Ouais.
C'est vrai que ce qui m'intéresse là-dedans, le prochain, l'Eldorado, hein, c'est l'intérieur. Et tu l'as cité, on y arrive. Bing le fait aussi, enfin tout le monde le fait. Ça devient, pour moi, ça sera la nouvelle chose qui va vraiment m'intéresser. Mais comme vous deux, alors, voilà, encore la semaine passée, j'allais à Milan, une ville que je connaissais pas. J'ai passé 20 minutes, une demi-heure à préparer mon trajet à Milan. Oui. Je devais aller chez quelqu'un assez rapidement. J'ai fait la petite Google Walk, là, en suivant un petit peu pour voir, me repérer. Et c'est absolument merveilleux. On arrive dans les villes, on n'a plus le sentiment d'être perdu. Il y a sur le mobile, on peut télécharger la carte. Enfin, tout ce qui se passe dans Map m'intéresse, même si c'est vrai, on est toujours dans l'incrémental, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a tellement changé la vie que c'est intéressant. Hein.
Bah là, c'est en plus, il y a des petites améliorations qui peuvent sembler ridicules, mais par exemple, quand on clique quelque part sur un point d'intérêt ou un magasin ou quelque chose, la carte se réorganise pour montrer les rues les plus importantes, là où elles n'étaient peut-être pas montrées. Les rues qui sont à côté de cet endroit ou pour y aller vont être mises en évidence ou en tout cas vont s'afficher. Il va y avoir des choses comme par exemple, ils ont racheté Zagat, qui était cet organisme de review de magasins et de boutiques et de restaurants surtout. Et là, ils affichent c'est un petit peu leur Yelp, quoi. Ils affichent les avis d'utilisateurs quand on clique quelque part. Enfin, c'est vraiment des choses incrémentales, comme tu dis, Ben, mais c'est un petit peu comme la recherche immédiate, le instant search, quand il l'avait présenté, tout le monde se disait ouais bon c'est un petit truc, mais très vite c'est devenu pas, je dirais pas indispensable, mais c'est devenu la manière dont on s'attend à ce que une recherche fonctionne. Mm-hmm. Et là je pense que toutes ces petites recherches supplémentaires font que on va s'attendre très vite à ce que les cartes fonctionnent de cette manière, et celles qui ne fonctionneront pas de cette manière nous paraîtront un peu moins avancées, un petit peu moins agréables à utiliser, quoi.
Une chose que je me dis vraiment que Google devrait faire, c'est vraiment acheter Foursquare. Pour moi, je suis tellement un fan parce que j'utilise Google Maps, mais Google Maps ne me propose encore, en ce moment-là, j'étais encore à Paris il y a 2 semaines et je l'ai beaucoup utilisé, ne me propose pas des restaurants, des bars, des magasins aussi facilement que Foursquare. Et je trouve que c'est tellement incroyable quand on est dans une ville de pouvoir savoir ce que les gens font, ce que les gens qui habitent la ville font, pas les touristes, et de pouvoir se diriger vers ces endroits-là, que ça a un intérêt incroyable. Maintenant, Foursquare, c'est une app séparée, c'est tout ça. C'est pour ça que je me dis l'intégration avec Google Maps serait incroyable. Donc, s'il te plaît, Google, achète Foursquare, intègre-le à Google Maps, je serais très heureux.
On va continuer un peu plus rapidement avec quelques annonces en plus qui sont peut-être moins importantes. Le Spotify de Google est annoncé, c'est une sorte de Google, ça s'appelle Google Play Music All Access. On l'attendait, il y aura peut-être un autre service de musique qui va arriver pour YouTube, mais on n'y est pas encore. En tout cas, celui-là est déjà arrivé. Pour un prix comparable à Spotify, pas encore en France si je ne m'abuse, mais en tout cas si vous le voulez, si vous êtes un gros client de Google Play, ben vous avez maintenant un service de streaming disponible. Wallet, le service de portefeuille virtuel de Google vous permet maintenant d'envoyer de l'argent par Gmail. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut attacher une image ou un fichier, on peut maintenant attacher de l'argent si on a un compte wallet. Et les gens, bien sûr, qui reçoivent cet argent ne sont pas obligés d'avoir un Gmail pour le recevoir. Ils peuvent se créer leur compte wallet. C'est un petit peu comme une sorte de PayPal, finalement. Mais vraiment, vraiment intéressant, ce concept d'attacher de l'argent à un mail. C'est juste une mise en forme différente de ce que fait déjà PayPal et ce que faisait déjà Wallet. Mais je pense que ça pourrait être très utile dans certains cas.
En sachant que je regardais sur un site web le pourcentage de paiements qui sont faits à travers PayPal en Europe. En Suisse, en tout cas, je sais que c'est moins de 1%. Donc, il faut savoir que PayPal est peut-être connu chez les techies, mais il n'est pas du tout utilisé par le public. Maintenant, quelle chose on a tous, même les plus vieux et les plus jeunes, c'est un email. Ben et oui. Peut-être encore pas tous un Gmail, mais quand même une bonne partie. Et donc, je trouve que c'est super intelligent de le faire aller dans un angle où finalement tout le monde a un email, donc tout le monde pourrait l'utiliser. Ce que je me posais comme question, c'est est-ce que Google doit avoir une licence bancaire pour pouvoir justement faire des transferts financiers ? Ça, je me posais. Ben,
j'imagine que pour Wallet, ils ont eu peut-être pas une licence. Si, quand même, si, de la même manière que PayPal, parce que ils stockent ton argent et tu peux le ressortir. Donc, mais oui, non, c'est vraiment. Enfin, il y a des outils de ce type-là. Je me souviens plus du nom, mais il y a un outil qui permet de réunir de l'argent pour impôts, pour faire des cadeaux, ce genre de choses. Mais là, c'est tellement simple. Si on a justement un cadeau à faire en commun ou payer quelque chose pour les vacances ou la location d'une maison, je sais pas quoi, hop, je t'envoie mon argent par Gmail. C'est tellement simple. Bon,
ça va dans une autre tendance aussi qui est assez forte, c'est que de plus en plus l'email, ça devient comme la boîte aux lettres. Vous savez, maintenant, la boîte aux lettres, quand vous avez quelque chose, avant, il y avait des lettres de personnes, quoi, qui ça pouvait faire plaisir. Maintenant, c'est des factures, des trucs officiels, et l'email est en train de devenir ça. C'est rare qu'on s'envoie des emails pour annoncer une bonne nouvelle, on le met sur Facebook ou pour les plus addictifs sur Google+. Et donc, l'email devient vraiment un endroit un petit peu officiel comme ça. C'est pour ça que les jeunes n'y vont pas. Et c'est assez intéressant de voir qu'ils vont dans cette tendance-là. Je pense que c'est bien vu de Google. Et puis, juste pour le Spotify de Google aussi, je trouve que on voit que l'industrie de la musique a toujours la même tactique, qu'il n'aura jamais réussi. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est diviser pour mieux régner. Et ils n'arriveront toujours pas. Mais voilà.
Pourquoi tu dis diviser, là?
Parce que ils ont fait des accords avec Google et pas forcément avec Apple déjà, parce qu'ils ont peur d'Apple qui a pris trop de pouvoir.
Donc là, ils disent. Bon, à mon avis, ça va arriver chez Apple aussi. Hein. Il semblerait qu'ils ont les accords avec deux des trois gros, et s'ils lancent leur service, le troisième pourra pas résister longtemps.
Oui, mais le but, c'est ça, c'est qu'ils ils ont raison. Hein. Ils essayent de pas avoir un acteur trop fort contre eux, et c'est tout à fait de bonne guerre. Mais bon.
Moi, par rapport à Spotify et Google Play, moi, j'utilise Spotify depuis maintenant presque 6 ou 7 mois. Et c'est vrai que moi, j'étais un gros, gros consommateur de musique. Pas forcément que je payais depuis que je suis vraiment enfant. Hein. Et donc, Spotify, c'est
donc
la première fois.
Ça t'a ramené dans le giron des.
Exactement. C'est
des
la première fois que ça m'a fait payer pour de la musique. Alors, je paye 12 francs par mois, donc environ 10 euros par mois. Et je passe des heures, non seulement tout seul, mais quand il y a mes amis à la maison, à chercher de la musique, à ça, pour vous dire à quel point c'est assez incroyable comme service, l'album de Daft Punk, ben justement, il est sorti il y a 2 jours sur Spotify, et maintenant il sort officiellement, je crois, aujourd'hui, partout dans le monde, et ils te mettent un petit reminder en te disant, une notification, en disant, ah, il y a le nouvel album de Daft Punk, on a vu que vous aimiez la musique, est-ce que vous le voulez? J'ai cliqué dessus tout de suite, j'ai pu l'écouter. C'est une tellement autre manière de consommer la musique, qui est très importante. La seule importance pour Google Play, c'est d'avoir le même catalogue que Spotify ou iTunes. C'est pour ça que je pense pas qu'actuellement Google Play a le même catalogue. Je pense qu'iTunes et l'Apple Store, c'est celui qui a un des plus grands catalogues. Et c'est pour ça que le jour où ils vont faire Apple Radio ou Apple Spotify Like ou Apple Music, et c'est là qu'ils vont vraiment encore plus cartonner. Parce que je pense que c'est l'accès à la musique, l'accès au nombre de titres qui fait l'intérêt.
J'allais dire une bêtise, j'allais dire, ah ben, t'as de la chance parce qu'il est pas disponible en France sur Spotify, l'album de Daft Punk. Je viens de vérifier, en fait, il l'est.
Okay, d'accord.
Donc, voilà. Très bien. vous rêviez de dire OK Glass pour activer vos Google Glass, eh bien désormais avec Chrome, vous pourrez dire OK Chrome. Bon, ça fait pas autant de choses que Google Glass, mais c'est l'équivalent un petit peu de, enfin, le Siri qui fait bien mieux que Siri, qui vous permet de faire des recherches conversationnelles, c'est comme ça qu'ils disent, avec Chrome sur votre ordinateur. Ça devrait arriver dans une prochaine version de Chrome assez vite. Il y avait déjà la recherche vocale sur Chrome, mais là, on pourra désormais faire la recherche conversationnelle pour lui dire, bon, je veux ça, est-ce qu'il y a plutôt des trucs là, etc. C'est marrant comme le marketing change les choses, parce que on n'a pas de terme pour définir ce type d'assistant personnel, et donc tout le monde dit c'est le Siri de Google, alors que Siri fonctionne 10 fois moins bien que le Siri de Google. Enfin bref, bon, c'est intéressant. Oui.
Moi, je trouve juste que, franchement, j'ai un iPhone 5 et j'en peux plus de Siri. À chaque fois, j'appuie, je me trompe. À chaque fois, j'appuie sur le petit rond, le petit bouton du rond, et ça m'engage Siri. Siri qui veut rien dire, qui ne fonctionne pas. À peine j'y essaye. Même dans ma voiture, ça fonctionne mieux que dans Siri. Donc, franchement, là, j'ai de la peine à croire que ça fonctionne, parce que je suis tellement déçu de ce que ça apporte à mon iPhone.
Il est pas, Siri fonctionne. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il te faut ta connexion Internet. Et du coup, il faut que tu parles, tu attends, il va envoyer le truc au serveur, le serveur réfléchit, et puis ensuite, il te renvoie une réponse, et puis il te dit, bon, si il a mal compris un mot, il faut recommencer, etc. Et si t'as pas de connexion Internet, si t'es en Edge, ou si t'es dans le métro, ou si je sais pas quoi, ça marche pas. Alors que le truc, bon, en même temps, tu vas pas faire une recherche quand t'es dans le métro, mais bref, Siri, pas top. Quelques petites news Android, 900 millions d'Android activés, plutôt un chiffre impressionnant. Google Play Games, qui est un ensemble de services pour les jeux qui sont centralisés chez Google Play, donc ils s'attaquent un petit peu plus sérieusement aux jeux. Il y a des choses comme les sauvegardes gardées dans le cloud, etc., etc. Google Play pour l'éducation, donc là encore un domaine qui était un petit peu privilégié par Apple. Une série de mesures et une série d'outils pour faciliter les choses pour l'éducation, pour qu'ils utilisent les tablettes Android, ce qui est plutôt, enfin les outils Android, ce qui est plutôt une bonne chose.
Ouais, là j'ai un petit insight de ce qui se passe chez Google.
Ouais, vas-y.
Donc Google a visé le marché des universités avec Docs et Drive et compagnie, donc avec leur suite Apps, et ils ont fait un tellement bon travail aux États-Unis que finalement toutes les universités qui pouvaient avoir ce genre de service et qui étaient d'accord d'entrer en matière l'ont. Donc c'est quelque chose d'assez logique qui maintenant ils s'attaquent ce qu'ils appellent les K-12, donc les
K plus petits. K-12, oui, c'est le kindergarten, donc la crèche. au 12, c'est 12th grade, donc la terminale. Oui.
Voilà, exact. Et donc, personnellement, je trouve ça absolument négatif et mal, parce que je trouve pas que les entreprises ont une place à avoir dans ce genre d'endroit comme le scolaire. Microsoft le fait depuis longtemps, etc. Tout le monde essaye d'être dans la tête de nos chers enfants. Moi, je trouve que les écoles ont raison de faire très attention. Les entreprises ont beaucoup de peine à rentrer. Et alors là, je ressors mon vieux t-shirt avec le pingouin et tout, et je dis la place à l'école, c'est le logiciel libre, parce que il faut limiter au maximum la capacité de nuisance dans le futur des entreprises. Mais je mets Google, Apple et Microsoft et tous les autres dans le même panier.
Ben alors là, si je me fais un petit peu l'avocat du diable, tu vas créer des enfants qui ne sauront pas utiliser Word et Google Docs, parce que autant j'aime beaucoup le pingouin, autant utiliser, et là je vais me faire des ennemis, comme c'est pas possible, mais autant utiliser OpenOffice. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent OpenOffice et que ça fait tout ce que tu veux et machin.
C'est pas vrai. OpenOffice, c'est vendu.
Oui, c'est vrai. Non, OpenOffice est revenu. Enfin bref. Mais je suis désolé, il fait pas ce dont tu as besoin dans les outils de travail. Enfin, on a beau cracher sur Office de Microsoft autant qu'on veut, il fait des choses vraiment vraiment très très bon que OpenOffice ne fait. Enfin, OpenOffice, il fait aussi bien que du Google Docs, ou plutôt Google Docs fait presque aussi bien qu'OpenOffice, mais c'est un truc un petit peu entre les deux, hybride. Et pour
oui,
moi,
mais quand
c'est
t'as 12 ans, t'as pas besoin de fusionner ta liste de contacts avec ton truc sur Excel, etc. T'as besoin d'apprendre les bases.
Mais Android, c'est Linux, donc.
Oui, mais une version.
Tu vois, du certain. Bon, ok, je me fais l'avocat du diable, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Et cher défenseur du logiciel libre, je plaisante, je comprends exactement vos raisons et vos arguments, et je suis même un petit peu d'accord en partie.
J'ai beaucoup d'éviter Linux, d'avoir le flow de commentaires. Ça va pas marcher, je pense.
Non, ils pensent tous que je suis un vendu Apple de toute façon, donc alors que j'utilise beaucoup plus Google qu'Apple, je pense. Oh, peut-être les deux autant, mais dans tous les cas c'est pas du Linux et j'en suis désolé. Le Galaxy S4 nexusisé, c'est-à-dire qu'il y aura une version du Galaxy S4 avec Android en version Google, sans aucune surcouche. Peut-être pas en France, je sais pas, mais il sera disponible en tout cas aux États-Unis.
Une information que je trouvais intéressante par rapport à l'Android, c'est que j'ai lu ça comme quoi plus de 90% des téléphones vendus en sous Android sont des Samsung. Et je trouve que pour Apple, c'est vraiment Google, c'est vraiment une grosse dépendance à un fournisseur qui s'appelle Samsung. Et j'étais étonné de
90%
voir.
90%, ça me paraît beaucoup, mais non, oui, c'est sûr que.
Oui, c'est 93% des bénéfices. Pas
oui,
du nombre
d'accord.
de téléphones vendus.
Ah, des bénéfices, ok, d'accord, oui. Bon, voilà, ça va. Ça veut dire qu'ils vendent plus cher que le reste, mais ouais.
Ça veut dire qu'ils se font plus d'argent. Mais d'ailleurs, Apple et Samsung se partagent 100% des bénéfices de l'industrie mobile. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... Samsung est devenu, en 3 ans, l'incontournable total du monde de l'industrie de la mobilité. Hein. Ça, c'est certain. Dernière chose dans cette Google I.O. qui était intéressante, on a eu un petit discours assez émouvant de Sergey Brin, le président de Google, hein, pour ceux qui ne le savent pas, qui a parlé de l'importance de l'informatique et de la technologie en général et des motivations de Google. Et il a dit des choses vraiment, enfin je dis émouvante. Bon, d'une part, il avait la voix un petit peu, comment dire, sa voix est endommagée parce qu'il a une maladie des cordes vocales qui, vous en souviendrez peut-être, l'avait empêché d'être présent dans des événements passés. Et donc, il avait cette voix un petit peu déchirée en parlant, mais il a tout de même fait son discours, et il parlait donc de l'importance de la technologie, du fait que son père lui avait donné goût à la technologie, et qu'il disait que c'était un outil qui nous permettait de réaliser des choses incroyables, et qu'on n'était qu'au début de cette aventure, en fait, et du fait qu'il fallait vraiment essayer de travailler ensemble et d'avancer dans la même direction, et qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens tenaient tellement à opposer telle et telle entité, et que c'était toujours une sorte de guerre, alors que je caricature à peine, mais quand il le disait, ça fonctionnait. Il disait, si on suit nos rêves, on peut accomplir des choses absolument incroyables. Et de cette manière, il avait une sorte de charisme et d'emphase qui était presque Steve Jobsienne. Je crois que c'est, enfin, je sais plus qui disait ça sur Twitter, mais je trouvais ça très vrai. C'était le porte-drapeau, le porte-étendard de la cause technologique. Là où Steve Jobs réussissait à nous emporter avec son charisme et sa verve, Sergey Brin avait arrivé à des niveaux comparables. Alors évidemment, comme pour Steve Jobs, c'était souvent beaucoup de belles paroles, et puis dans les faits, il faut mettre un tout petit peu de nuance. On a notamment John Gruber de Daring Fireball, ce blog dont je vous parle de temps en temps, qui disait... Oui, bon, il est gentil, Sergey Brin, à nous dire que c'est vrai, on est vraiment trop méchant d'opposer les gens, d'opposer tout le temps Google à telle et telle autre société. Mais n'oublions pas que Google a quand même construit Android après l'iPhone, Google Plus après Facebook, un service de musique après Spotify. Ils sont arrivés dans le marché du RSS, l'ont complètement massacré et maintenant ils s'en vont. Gmail, c'était un Hotmail en mieux, etc. etc. Les cartes Google Maps, c'était MapQuest en mieux. Alors effectivement, ils ont amélioré 99% des choses dans les marchés dans lesquels ils sont entrés. Mais en même temps, on peut comprendre qu'on les compare à leurs concurrents parce que effectivement, et même leurs produits phares, hein, Google Search, la recherche, ils sont arrivés après Yahoo en concurrençant et en améliorant le modèle de Yahoo. Et ils ont fait, comme je le disais, beaucoup mieux que les concurrents qui sont venus attaquer. Mais il y avait quand même cet aspect qu'il faut pas oublier non plus. Donc bon, pour mettre un tout petit peu de nuance à ce qu'il disait, moi j'ai été quand même assez touché, je l'avoue, par ce discours. Et puis, il a pris des questions du public ensuite. C'est une chose qui est assez inattendue dans ce type d'événement. Et ça a donné, pour voir une vision un petit peu d'ensemble de cette keynote, franchement, Google est ressorti, à mon sens, comme un véritable héros de la technologie qui a une vision à très long terme. Ils ont toutes les nouveautés qu'ils ont annoncées, c'est grâce à leur capacité d'analyse de données et leur serveur, leur infrastructure absolument incroyable qu'ils construisent depuis des années et qu'ils étaient en train de... Enfin, dont ils... qu'ils planifiaient, Sergey et... Ah, j'ai oublié le... inexcusable. Pardon, Larry Page, bien sûr, qu'il planifiait quasiment depuis le début. C'était dans cette direction qu'il voulait aller. On a par exemple, je vous parlais des photos sélectionnées dans Google+. Ils réussissent par exemple, grâce à toutes les données qu'ils ont sur tout le monde et sur tout, à savoir que, par exemple, si les photos sont floues, on va pas les choisir. Ou si c'est des photos où les gens ne sourient pas, on va pas les choisir, etc., etc. Alors, ça fait un petit peu peur parfois, mais ce travail qu'ils font sur les données absolument invraisemblables leur permet d'accomplir des choses comme le fait de vous proposer un album de photos où les photos qui vous présentent, la sélection est bonne, ou le fait de faire Google Glass, ou le fait de faire ces cartes qui s'adaptent à ce dont vous avez envie. Enfin, il y a vraiment une vision incroyable, et le personnage Google en ressort comme quelque chose d'incroyablement positif et sympathique, quoi. Le champion de la tech, c'est clairement, à mon sens, aujourd'hui, c'est beaucoup plus Google que qui que ce soit d'autre.
Ouais. Autant je n'aime pas du tout Gruber, qui je pense est le plus surévalué du monde de la tech. Ouais. Autant je trouve qu'il a raison.
En plus, c'est un fanboy Apple selon les analyses les plus froides, mais
Exact. Bon, un peu non, pas entre toi et Mike, on va dire, un peu comme ça.
En même temps, toi t'es pas un Google fanboy, t'es pire, t'es un ex-Googler.
Exact. Mais bon,
oui, disclosure, disons que tu travaillais chez Google avant.
Oui. Mais pour les questions, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça reprend justement une habitude qu'il y a chez Google. Vous savez, ils ont les vendredis, les TGIF, Thanks God It's Friday. Et puis, chez Google, il y a un meeting de tous les employés, tous les vendredis, où très souvent, les fondateurs sont là et ils répondent aux questions de la salle. Et c'est pas des questions tendres, hein, c'est des questions d'entreprise. Donc, ils ont quand même cette habitude et je trouve que c'est intéressant qu'ils le fassent. De plus en plus de sociétés américaines l'ont, mais c'est bien. Mais par contre, je suis aussi d'accord avec toi, Patrick, tu as raison. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vision chez Google. Et franchement, c'est eux qui font rêver en ce moment. Ça, c'est vrai aussi.
Et je crois que ça vient vraiment des deux grosses choses qui sont les Google Glass et les Google Self-Driving Cars, qui sont vraiment, vraiment quelque chose qui fait rêver le public.
Ah bah c'est le futur. Ouais,
c'est comme on envoie sur la Lune ou sur Mars des fusées, mais quand il n'y a personne dedans, les gens s'y intéressent pas. Alors on sait que dès qu'il y a des humains à l'intérieur, ça intéresse le public. Et je pense que c'est aussi cette espèce de vision long terme. On peut aussi rapprocher souvent Amazon à cette vision-là qui pense pas seulement court terme ou pour satisfaire son shareholder, enfin ses actionnaires rapidement. Et je trouve que c'est cette vision-là que moi j'aime bien en tout cas. Et, ouais. Et ça fait rêver finalement. Et Steve Jobs nous faisait rêver. Donc c'est pour ça que là, quand Larry Page et Sergey Brin nous font rêver, moi je suis plutôt content. Je les suis avec joie, je vais dire.
Ouais. Ben c'est pour ça que je disais que ce Google I.O. finalement, moi, ne m'a pas déçu, contrairement à toi, Ben. Parce qu'il y avait je sais pas, cette petite part de rêve de Google, et ça m'a plu, quoi. Passons à notre deuxième gros sujet, le rapport Lescure, donc ce fameux rapport qui a été commandé à Pierre Lescure sur C'était un rapport sur quoi exactement? La modernisation de l'industrie culturelle, ou comment faire rentrer l'industrie culturelle dans l'ère du numérique, l'adaptation des politiques culturelles au numérique, quelque chose comme ça. Il a rendu un rapport de 900 pages et de 75 propositions. On va pas vous faire les 75, mais je pense qu'on peut dire qu'il a pas fait que des heureux, ou en tout cas, les propositions divisent très clairement la France entre l'industrie culturelle qui est très contente des propositions et l'industrie tech qui est plutôt pas contente des propositions. Je pense qu'en gros, hein, c'est à peu près ça. Je vais énoncer les quelques propositions principales. D'abord, une taxe sur tous les appareils connectés. On avait évoqué la possibilité de la fin de la taxe sur la copie privée. Il se trouve qu'en fait, la proposition n'est pas d'annuler la taxe sur la copie privée, de la remplacer par quelque chose d'autre, mais de créer une nouvelle taxe qui serait différente, qui serait sur tous les appareils connectés, donc téléphone, tablette, télévision, etc., etc., qui serait... selon le rapport Lescure, modeste de 1%, et qui serait utilisé pour reverser de l'argent aux industries culturelles pour les aider et pour... Bon, on ne comprend pas très bien la logique de la chose, mais en gros, c'est pour aider les industries culturelles. On va revenir là-dessus parce que je pense que c'est la mesure la plus controversée des propositions.
Ouais, Mike, j'aimerais que tu me dises quelque chose, toi qui connais très bien. Alors en Suisse, on a quelque chose qui s'appelle la Suiza, qui prend l'argent un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'il existe déjà une taxe sur tout matériel capable d'enregistrer et qui est à peu près du même ordre, mais j'en suis pas certain. Alors, Val, qu'est-ce que je raconte des grosses bêtises?
Écoute, je crois qu'il y avait une taxe comme ça sur les appareils. Maintenant, je sais pas. Quand j'achète des appareils électroniques, je vois pas cette taxe apparaître plus visiblement que la TVA qui est seulement de 8% en Suisse.
Alors, n'oublions pas qu'en France, il y a la taxe sur la copie pour la copie privée, qui est une taxe qui est. Alors, certains disent oui, mais non, c'est pour la copie privée, pas pour le piratage. C'est pas le cas. La copie privée, c'est quelque chose enfin, vous avez le droit, si vous avez acheté quelque chose, de le copier ailleurs. Et il n'y a pas de taxe à payer puisque c'est simplement vous qui profitez.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De la chose. Ce dont on parle quand on dit pudiquement copie privée, c'est si vous le copier sur une cassette et que vous donnez la cassette à un ami et qui est de fait étendue à d'autres types d'utilisation connexes, on va dire. Donc la taxe pour la copie privée existe déjà.
J'ai trouvé en fait le nom de cette taxe, c'est le taxe sur les supports vierges où tu payes par gigaoctet, effectivement. Donc ça
c'est la même
déjà.
Chose. C'est la même chose, exactement. Et ça existe déjà. Mais on va revenir sur la taxe sur les appareils connectés. L'Adopi serait transférée au CSA avec le système de réponse graduée qui serait annulé, mais remplacé par un système d'amende de 140 € pour toute infraction. Donc, bon, pourquoi pas. On en avait parlé déjà il y a quelque temps. C'est un petit peu cher, mais en même temps, il faut que ça soit, comment dire, que ça vous incite à ne pas copier. D'un autre côté, ce qui me dérange un peu, c'est que ça ne vous absout pas des poursuites juridiques. Donc, vous payez l'amende et en plus, vous pouvez avoir des poursuites juridiques. Il me semble y avoir un petit peu double peine là-dessus. Le CSA serait en charge du net. En plus des médias traditionnels, c'est-à-dire réguler Internet. Alors là, ça a fait une levée de bouclier évidemment importante. On va en reparler aussi. Juste un mot pour dire que le net est quand même un petit peu moins centralisé que les médias traditionnels. Donc pour contrôler, bon courage au CSA. En même temps, moi, je comprends les gens qui disent « Mais mon Dieu, c'est l'horreur si le CSA se met à contrôler le net. » Et d'un autre côté, je dirais, il y a des choses qu'il faut peut-être, sur lesquelles il faut peut-être mettre des règles. Alors, je ne parle pas de « Mon Dieu, on va prendre comme excuse la pornographie et donc on va tout contrôler. » Mais, par exemple, la quantité de pubs. À la télé, la quantité de pubs est réglée par le CSA. Est-ce qu'on peut avoir qu'un certain nombre de bannières, par exemple? Est-ce que les articles sponsorisés, est-ce qu'il faudrait les signaler peut-être de manière un petit peu plus claire? Est-ce que ces règles-là pourraient être importantes à établir aussi? Est-ce que les conflits d'intérêts devraient être révélés un petit peu plus clairement? Ce genre de choses. Bon, donc... peut-être, je suis d'accord que le contrôle, en gros, le contrôle du CSA, de l'internet par le CSA, ça me fait plus peur qu'autre chose, mais en même temps, c'est pas forcément complètement négatif. La réaction épidermique ne prend pas toujours en compte les choses un petit peu plus sensées qui pourraient être apposées à cette mesure. La disponibilité pour la VOD des produits culturels, notamment des films, bien sûr, au bout de 18 mois au lieu de 36 actuellement. Là, je pense que c'est une mesure qui fait l'unanimité. On aurait même tendance à dire qu'il faudrait aller plus vite que 18 mois.
Mais 18 bon. Mois.
C'est un petit peu long, mais c'est la VOD, c'est pour vidéo on demand. Bon.
Oui, alors on ira sur Pirate Bay on demand, comme ça.
C'est possible aussi. Mais bon, aujourd'hui c'est 36 mois, donc les services du type Netflix ont beaucoup de mal à se développer parce que 36 mois c'est beaucoup trop long. 18 mois ça devient un petit peu plus acceptable, on va dire.
C'est exactement la même chose que si on disait à Spotify, tu peux pas avoir l'album de Daft Punk, attends 2 ou 3 mois pour l'obtenir. C'est exactement la même chose. Je trouve que c'est une erreur, mais enfin. Les gens continueront à pirater, ça fait rien.
Si on ramenait à 6 mois, ça serait merveilleux.
Non. Tout ce qui dépasse aussi... quelques heures.
Ça ne va pas.
Non, mais vous savez comment fonctionne le financement du cinéma. Les chaînes payent une partie, donc il faut qu'elles aient une fenêtre d'exclusivité aussi. Mm-hmm. Puis il y a les chaînes du câble, et puis il y a etc. Donc, bon, bref. Revenons sur la question, sur les deux questions importantes, le CSA et la taxe pour les appareils connectés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste? C'est pas juste? Est-ce qu'il faut qu'ils payent? Est-ce qu'il faut que tous les appareils connectés payent pour financer la culture française, qu'il faut défendre, n'est-ce pas, la culture française?
Alors, moi, je vais juste expliquer le principe en Suisse, peut-être, pour expliquer la réflexion que moi j'ai. Alors, en Suisse, il y a ce qu'on appelle la SUSA, où on doit payer une taxe annuelle sur tous les appareils qu'on a connectés. Donc, si on a une télé, on paye une certaine taxe. Si on a une télé plus un ordinateur, plus un iPad, plus si on paye un peu plus, et ça c'est après redistribué au monde télévisuel et radio de Suisse.
Ah mais c'est la redevance alors.
C'est la redevance.
C'est autre chose. Ah oui, d'accord. Non, d'accord.
Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens disent j'ai une télé ou je n'ai pas de télé, ils disent rien, ils ne payent pas la redevance, ou alors ils la payent qu'à moitié. Puisqu'ils ne vont pas dire j'ai 50 écrans et 25 iPads à la maison, ils ne le disent de toute façon pas. Et moi le premier. Donc, étant donné que cette taxe ne marche pas, pourquoi pas trouver un nouveau moyen? Et je trouve que payer une taxe à l'achat, je dis bien à l'achat, pas annuel, mais à l'achat de son produit, qu'est-ce qu'on s'en fout? On rajoute 1% de plus, de toute façon, ça sera pas le consommateur qui le paiera, ça sera soit le distributeur, soit le fabricant. Pour moi, je pense pas que le fabricant, c'est un monde tellement compétitif que c'est pas le fabricant qui va encore augmenter ses prix d'1% pour le faire payer au public. Donc finalement, c'est pas si mal, parce que si ça pouvait nous débarrasser de la redevance et faire payer par consommation des articles, moi je suis pas contre.
Ouais, mais là tu parles de en plus de la redevance.
Il y a plusieurs choses qu'il faut préciser, Mike. En l'occurrence, tu parles effectivement de la redevance. Si on se débarrassait de la redevance en France en tout cas est faite pour payer en partie la télévision publique et la radio publique. C'est quelque chose de totalement différent. Et là, on ne parle pas de remplacer la redevance par une taxe sur les appareils qui diffusent la télévision. On parle d'ajouter une nouvelle taxe supplémentaire pour reverser l'argent que rapporterait cette taxe à l'industrie culturelle. Donc, l'industrie culturelle, c'est un petit peu vaste, mais a priori, ça serait la musique, le cinéma, etc. D'une part, la redevance est étendu aujourd'hui, si je ne m'abuse, c'est déjà le cas, ou en tout cas c'est en projet, mais je crois que c'est déjà le cas, aux appareils du type iPhone, iPad, etc. N'importe quel appareil, ou ordinateur d'ailleurs. Donc, on payera bientôt la redevance, quel que soit l'appareil qu'on a. Et en plus, on a également une taxe sur la copie privée, comme on le disait, qui est là pour compenser le piratage. Et donc, ces deux domaines étant déjà couverts, c'est peut-être même discutable selon certains, mais étant déjà couverts, cette taxe qu'on rajoute, pour moi, j'ai fait un petit article justement sur Google+, puis tu disais, Mike, qu'on ne l'utilisait pas, celui-là a été très 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 actif, où je disais ce que je pensais de cette taxe. Et donc, je vais vous faire un résumé, si vous voulez tous les détails, allez voir sur mon Google+, mais le gros problème que j'ai avec cette taxe, c'est que c'est une taxe qui est censée soutenir les industries culturelles, qui est appliquée aux appareils connectés, alors que selon la logique qui dirait ces appareils connectés servent à diffuser des produits culturels, vidéo ou audio, donc musique ou film, etc. Et donc, il faudrait qu'ils participent à l'effort. Mais le problème, c'est que ces appareils et ces contenus qui sont diffusés sur ces produits, ils sont déjà payés. Je veux dire, la participation à l'effort, ça existe déjà, c'est le prix que tu payes. Quand tu achètes un morceau sur iTunes, quand tu payes ton abonnement Spotify, quand tu achètes quand tu prends un abonnement sur Canal+, Canal Play Infinity, ou quand tu regardes sur TF1 un truc en VOD avec de la pub et qu'en plus TF1 a payé le producteur de contenu pour le droit de diffuser ses programmes, il me paraît complètement inadmissible qu'on fasse en plus payer les constructeurs qui, d'une part, n'ont rien demandé et n'ont pas grand-chose à voir avec toute cette histoire, mais qu'on les fasse en plus payer pour contribuer à cet effort. Si vraiment il y a un problème dans l'industrie culturelle, c'est peut-être qu'ils font pas, ils mettent pas les bons prix, ou ils ont pas, ou même, à vrai dire, un autre problème qu'on évoque pas du tout dans ce rapport Lescure et qui est le gros problème, c'est que on ne met jamais en cause la politique et l'action de cette industrie culturelle. Donc on les invite pas du tout à se remettre en cause et à suivre de nouveaux, à essayer de nouveaux business models, à essayer de nouveaux modes de financement. Et accessoirement, et là je termine mon petit coup de gueule, l'industrie culturelle en question est déjà incroyablement financée par nos taxes et par nos impôts et par l'État. Donc si jamais on voulait ajouter une taxe sur, je sais pas, une nouvelle sorte de TVA culturelle sur tous les produits du monde et qu'on se dise, bon, ça, c'est pour aider la culture en France qui a besoin d'être aidée. Pourquoi pas? Si ça passe, eh ben, ça passe et c'est la loi. Mais pourquoi est-ce qu'on vise les constructeurs d'appareils technologiques, d'appareils informatiques, alors que ce n'est pas pour la copie privée, c'est juste pour la diffusion? Ça n'a pas de sens. Ces produits sont déjà payés. Il n'y a pas de raison qu'on invente une nouvelle taxe supplémentaire pour ces produits-là, qui sont déjà, pour ces contenus culturels qui sont déjà payés par les gens qui ne devraient pas avoir les payer deux fois.
Bon, moi, j'ai une question, Patrick, parce que moi, la chose qui me choque beaucoup sur ce genre de taxe, c'est qu'on dit, oui, la culture, voilà, c'est une noble cause, etc. De ce que je comprends de système de redistribution de toutes sortes de taxes autour de la culture, ça va toujours aux gros qui n'en ont pas besoin. Monsieur Lescure, hein, qui est sûrement encore avec plein de liens de Canal+, va voir les chiffres de Canal+ augmenter de manière considérable. Et les petits artistes, les gens qui créent cette culture populaire ou cette culture de base, de toute manière, ne touchent pas un rond. Et donc on est vraiment là dans une logique industrielle, et moi c'est ça qui me choque. La culture est un prétexte dans le cas présent pour moi, et c'est juste vraiment une façon de subventionner une activité au même titre qu'on subventionnerait quelqu'un qui aurait, je sais pas, n'importe quel business autre que la culture. Est-ce que c'est juste ce que je te dis là ou pas vraiment?
Bah ça, oui, ça me semble. Enfin, les liens de Pierre Lescure avec le monde, avec l'industrie de la culture sont, je pense, indéniables. En même temps, on aurait pu, on a le droit de s'attendre à ce que quelqu'un qui connaît son sujet fasse ce type de rapport. Donc, on va pas en prendre quelqu'un qui sort de n'importe où non plus. Mais ce qui est à mon avis assez clair, et là je suis biaisé parce que moi je fais partie du monde de la tech, mais ce qui est clair, c'est que il n'y a pas ce rapport est très unilatéral. Il va dans un sens, et d'ailleurs la Quadrature du Net, qui fait toujours un excellent travail, a émis un certain nombre de propositions à eux, qui à mon avis, vont un petit peu trop dans l'autre sens. C'est genre économie culturelle équitable, pratique non marchande, domaine public, etc., etc. Donc c'est très bien, hein, je veux dire, il faut ça aussi. Mais pour le coup, leur proposition, c'est que ça. Donc bon, en même temps, ça compense les propositions d'Excure qui sont que du côté industriel. Mais bon, il y a des choses intéressantes là-bas aussi. À mon avis, ce qui est clair, c'est que ce rapport ne va pas dans le bon sens. Moi, je suis, si on veut dire les choses clairement et de manière un petit peu dure, oui, t'as raison, Benoît, c'est encore une fois une série de propositions qui favoriserait le statu quo d'une industrie qui ne veut pas évoluer. Et c'est ça finalement le gros problème de toute cette histoire. Mike, un autre truc à ajouter sur la taxe? Parce que moi, je suis pas du tout d'accord avec cette taxe, mais
je mélange les deux, et c'est vrai à tort, puisque je mélange souvent la redevance qui va la même chose en Suisse, hein, ça va aux radios et aux télé publiques qui font un super travail, il faut le dire. Couleur 3, ici, on a une radio qui est vraiment exceptionnelle et qui est publique et sans pub. Mais je vois aussi le mauvais fonctionnement de cela parce que les gens ne la payent pas. Et moi, je crois beaucoup à la politique du consommateur-payeur. Finalement, celui
le problème, c'est que il y a vraiment un problème de base de la raison de cette taxe. Parce que si on parle de la redevance, je pense que bon, il y aura des gens pour dire qu'on en a besoin, d'autres pour dire qu'on n'en a pas besoin, mais sur le principe, je pense qu'on peut la comprendre, en tout cas. Mm-hmm. Sur cette taxe-là, c'est vraiment se dire... Je parlais avec Cédric Bonnet, qui a trouvé un exemple, une analogie absolument magnifique à cette taxe. Il disait, c'est comme si on demandait aux gens qui payent un service de musique pour mettre de la musique dans leur boutique, par exemple, je sais pas, moi, bon, Gap ou la Fnac ou un autre nom de boutique un petit peu plus roots.
En quoi tu vas faire
de vente traditionnelle de CD. Ah bon,
par exemple, la Fnac, j'en connais pas. S'ils payaient, vous savez, le Monoprix, ils payent un service de radio pour passer de la musique dans leur boutique. Et c'est comme si on leur disait, bon, vous payez pour ce truc, mais attention, vous diffusez donc de la musique dans votre boutique, donc on va vous mettre une taxe sur ce que vous vendez en boutique pour participer à l'effort. Tu vois, il y a un truc qui est complètement incohérent dans cette proposition-là, et c'est pour ça que, pour moi, elle est véritablement problématique, quoi. Il y a quelque chose qui ne colle pas du tout, qui dépasse un petit peu l'idée d'être pour ou contre. Pour moi, le fondement de cette proposition est pas solide. Donc,
mais les rapports ont quand même vocation à finir dans les sous-sols, ou ces rapports, est-ce qu'il a un pont législatif, on va dire. Est-ce que quelqu'un va devoir se prononcer de manière officielle
Alors on sait pas tout si tout va se produire, mais sur Adopi par exemple, a priori ça va se produire. L'Adopi va être fermé. Bon, ils avaient besoin d'une excuse pour fermer Adopi parce que tout le monde sait que ça fonctionne pas. Mais bon, en l'occurrence, celle-ci au moins va sans doute se réaliser. Et justement, puisqu'on en parle, revenons sur la question du CSA. Le CSA aux commandes d'Internet, est-ce que c'est une bonne chose ou pas?
Moi, je dois dire une chose. Bon, le CSA, finalement, c'est celui qui comprend les médias donc depuis pas mal d'années, qui fait la radio et la télévision, en tout cas en France depuis des années. Donc, quand tu me l'expliques comme ça, je trouve pas ça illogique comme manière de faire. Je me dis, ah, encore un autre organisme avec des autres gens qui va monitorer, entre guillemets, qui va monitorer les problématiques d'Internet. Ça me fait plutôt sens, moi, que télévision, radio, Internet soient englobés par la même, par la même organisation. Sans savoir ce qu'ils doivent monitorer ou pas, parce que contrôler Internet n'est pas possible, mais pouvoir discuter, être l'interlocuteur privilégié pour les problématiques d'Internet, comme on voit le piratage, les amendes, ce genre de choses, je trouve pas ça si mal.
Benoît, est-ce que tu seras aussi horriblement, comment dire...
Ouais, vendu, vendu, ouais, c'est ça, faut lâcher les mots. Bah écoute, pourquoi pas, si les gens qui comprennent rien veulent se mettre en tête de réguler quelque chose d'international, moi je suis pour, hein. Après tout ça fera du job. Non, le problème qu'il y a effectivement, c'est quand on veut réguler le web, qu'est-ce qu'on fait finalement? Il y a des entreprises en France, c'est sûr, mais à part ça, la plupart des tendances viennent d'ailleurs, la plupart des sociétés viennent d'ailleurs. Quel est le but même de ça? C'est consultatif? Moi, je vois juste aucun sens. Pour moi, c'est de la bureaucratie sur quelque chose qui n'en a pas besoin et qui n'est de toute manière pas dans une juridiction appropriée. Donc.
Et de toute façon, ça va le faire. Je veux dire, regarde aux États-Unis, on en a parlé de la Six Strike Law, là, des six, à partir de six fois où on est.
Une sorte d'adopi américain.
Voilà, adopi américain. Maintenant, c'est presque adopté et ça va l'être. Et je dis, il y a quand même besoin d'une régulation, et il y en aura. Je dis pas qu'il faut réguler Internet. Je dis que la régulation, elle existera par l'État de toute manière. Donc, autant qu'il y ait un organisme qui la comprend et prenne.
Mais alors, prenons je prends le flambeau des défenseurs de la liberté, du coup, face à vous, despotes. Internet est un espace, et le seul espace, pas le seul, mais j'exagère, mais en tout cas c'est un espace de liberté totale où justement on n'a pas ce contrôle de l'establishment, ce contrôle du gouvernement, où on a justement quelque chose de libre qui peut évoluer et où les petits sont capables de faire vaciller les grands. Donc, est-ce que vraiment on veut que le gouvernement et ce florilège de personnes un petit peu âgées qui ne connaissent que le vieux monde des médias traditionnels se mettent à décider ce qu'on peut et ne peut pas faire sur Internet? C'est vraiment quelque chose que vous pensez peut-être pas souhaitable, mais en tout cas bénéfique?
Et pour montrer à quel point c'est inutile, les décisions du CSA, on va prendre l'exemple absolument affligeant de l'équilibre des temps de parole pendant les campagnes politiques. Donc voilà, le CSA décide, il dit voilà, nous on va contrôler le réseau. Au final, nature et pêche tradition, là je sais pas comment il s'appelle, passe à 3h le matin en boucle pour arriver au quota. Et puis les autres, ben voilà, ils font la tranche de 8h où il y a du monde. Et le problème qu'il y a, c'est que on peut pas réguler et on arrive à des absurdités pour moi dans beaucoup de cas. Après, il y a des choses qu'on peut faire au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau légal. Et là, c'est par exemple la limitation, si les lois contre le racisme, etc. Mais qui sont des choses importantes de société, pas de la bureaucratie qui vient essayer de se.
Alors moi, je vais prendre encore une fois le contre-pied parce que j'aime bien ça. Mais est-ce que sans ces règles, les choses seraient pas un petit peu plus gênantes? Par exemple, sans aller jusqu'à des extrêmes comme le Front National ou ce genre de choses, mais imaginons que certains médias qui sont plus de droite, par exemple, dans la campagne pour la présidentielle, comme par hasard, on se retrouve avec, je sais pas moi, 60 ou 65% de temps de parole pour l'UMP sur TF1. Est-ce que c'est souhaitable ça? Est-ce qu'on peut pas se dire, au moins, oui, il va y avoir des effets de bord et des choses un petit peu ridicules comme l'histoire de chasse et pêche à 3h du matin, mais au moins, sur les grosses choses, eh ben, le principe sera respecté. Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, ces questions de publicité, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de publicité ces dernières semaines et ces derniers mois sur Internet, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignaient, qui n'aiment pas la publicité. Est-ce que le fait que le CSA dise, comme à la télévision, la publicité sur les pages web ou sur Internet, on peut en faire tant et tant de pourcents et tant de d'affichage par page, etc. Oui, ça fonctionnera pas partout et il y aura énormément de gens qui et de sites qui ne seront pas sous la juridiction du CSA. Mais pour les gros, je sais pas, pour les sites de journaux par exemple ou les gros sites, eh ben ceux-là ils joueront le jeu. Donc la publicité sera un petit peu moins envahissante. Les articles sponsorisés dont je parlais tout à l'heure, il faudrait peut-être aussi avoir, le CSA dira, il faut avoir un petit mot qui dit exactement tel truc, clairement placé à tel endroit, de manière à ce que les blogueurs soient tous au même niveau, au même niveau pour ce genre de choses, et qu'on comprenne qu'un article est sponsorisé s'il est sponsorisé, ou alors que tel ou tel blogueur a reçu ou même journaliste, hein, a reçu en cadeau ou en prêt au moins d'un constructeur un appareil qu'il va tester. Tu vois, ce genre de choses, oui, c'est pas le grand...
La déontologie, il faut qu'elle soit donnée par un organisme supérieur, comme ça, qui vient t'expliquer.
Bah, je sais pas, je pose la question.
Je veux dire, on arrive... Celui qui pense que TF1 est une chaîne équilibrée a un problème de perception du monde. Et il a un problème qui est beaucoup plus important que l'équilibre du temps de parole.
Même chose d'accord, pour 32, mais du coup, hein, je te dirais.
Oui, ouais, non, mais d'accord, mais du c'est coup... Ça, donc... Mais du coup, Benoît, avec les règles du CSA, ils sont obligés d'accorder le temps de parole. C'est au moins ça, tu vois, il y a un temps de parole équilibré.
Non, parce que t'as par ailleurs, t'as mille et une façons de le faire. Donc
non,
on
mais
a
bien
l'impression
sûr, mais
de
s'il
y
avait
régler
pas,
quelque
s'il
chose.
S'il n'y avait pas cet équilibre, s'il n'y avait pas cet équilibre, tu te doutes bien que ça serait encore pire.
Moi, ce que je pense
que ça serait la même chose. Non. Je pense que ça serait juste plus honnête.
D'accord, c'est possible.
Moi, je me dis une chose, c'est quand je dis CSA, pour moi, c'était exactement ce genre de choses, comme l'article sponsorisé, les conflits d'intérêts qu'il allait devoir gérer. Il n'allait pas devoir monitorer l'Internet, parce qu'on sait déjà que c'est pas possible. Même la Chine a du mal, alors qu'ils ont mis des outils en place qui sont quand même assez importants. Je pense que le monitoring, ou essayer de vouloir le mettre dans une direction, ne fonctionnera pas. Mais non, pouvoir discuter de ce que c'est un conflit d'intérêt pour un blogueur, mais dans ce cas-là, il faut aussi le réglementer par les journalistes, parce que le nombre de journalistes qui reçoivent et qui écrivent dans la presse écrite,
ah bah oui, bien sûr.
Il faut le régler pour tout le monde. Et moi, je trouve que ça a un sens, là. Et c'est pour ça que je disais, le CSA, pourquoi pas? Ils sont déjà dans la presse écrite, radio et TV. Pourquoi pas aussi réglementer ces problématiques de publicité sur Internet, sans réglementer l'Internet?
Oh là là, mais mon Dieu, si j'avais pensé un jour qu'on défendrait le CSA dans le rendez-vous tech.
Messieurs, vous êtes les chantres de la bureaucratie.
C'est vrai, j'avoue que là, sur ce coup, je me surprends moi-même. Mais bon, disons que on essaye de présenter, comme toujours, n'en déplaise à certains, les deux côtés de l'argument. Si vous avez des commentaires à nous faire sur les dangers que pourrait représenter le CSA en contrôle d'Internet, n'hésitez pas à venir le faire sur le blog de nowatch.net dans les commentaires de l'émission. Évidemment, ça sera toujours lu avec beaucoup d'intérêt. On aurait pu parler pertinence de soutenir la culture même en général, mais ça c'est un autre sujet, donc on le réservera à un autre moment. Disons quelques mots de notre sponsor. Notre sponsor, vous le savez, c'est Pritel. Et Pritel a sorti un nouveau forfait pour les tablettes. C'est le forfait ajustable Modulo Tab, qui, comme les autres forfaits Modulo, s'adapte à votre consommation. Il y a là quatre paliers totalement distincts pour votre utilisation de data sur votre tablette. Un minimum à 4,90€ qui vous donne 100 mégas. Bon, là, c'est le minimum de facturation. Si vous avez un mois où vous n'utilisez pas trop votre tablette, et vous êtes quand même, vous gardez votre abonnement et vous payez que ce minimum. Vous avez ensuite des paliers à 9,90€, 14,90€ et 19,90€ pour 2 gigas d'utilisation. Ce qui est intéressant, comme toujours chez Pritel, c'est que une fois que le mois est écoulé, Pritel regarde votre consommation et vous fait payer ce que vous avez consommé. Donc si vous n'avez par exemple consommé que 480 mégas, vous allez payer 9,90€. Et pas plus que ça. L'offre est disponible bien sûr à tous les nouveaux inscrits et à tous les clients Pritel. Que vous soyez nouveau client ou ancien client, c'est disponible pour vous de toute façon. C'est l'offre Modulo Tab. Et il y a aussi une offre avec en option, donc pour cette offre Modulo Tab en option, le routeur Wi-Fi qui vous permet de connecter plusieurs appareils à votre routeur. C'est-à-dire que vous mettez votre carte SD, vous mettez votre carte SIM dans le routeur, ça vous crée un réseau Wi-Fi et vous pouvez connecter tous vos appareils à ce routeur. C'est super pratique si vous avez différents appareils que vous voulez utiliser avec un forfait data qui, en plus, comme je le disais, s'adaptera à votre consommation. Donc, si vous voulez regarder ça, vous allez sur le site de Pritel et on les remercie très chaleureusement de leur soutien de notre émission. On continue avec la partie news et rumeurs sur lesquelles on va passer plus rapidement sur les différentes news qui ont fait les deux dernières semaines avec une grosse affaire, c'était le rachat de Tumblr par Yahoo pour 1,1 milliard de dollars. Alors Tumblr, on le connaît peut-être un petit peu moins en France, mais il est très 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 gros dans les milieux anglophones. C'est un site, comment dire, entre Twitter et un vrai blog. En gros, c'est un moyen très facile de faire des articles en mettant une photo ou quelques mots ou quelque chose comme ça. Et ça fait, il y a énormément de blogs. Et donc, Yahoo l'a racheté pour 1,1 milliard de dollars. C'est le prix, je sais plus, quelqu'un disait sur Twitter, mais maintenant, il n'y a pas une seule société sur le net qui vaille pas 1 milliard de dollars. C'est quoi cette histoire? 1 milliard pour le rachat de Tumblr par Yahoo, vous paraît cohérent?
Je peux te le dire en chanson, si tu veux.
Ah, tu m'intrigues, vas-y.
The internet is for porn. The internet is for porn. Voilà.
Attends, le contenu pornographique est plus de 18 ans ne constitue que 10% des blogs de Tumblr.
Oui, non, absolument. Tumblr, c'est...
combien de pourcentage des page views?
Alors ça, on ne sait pas.
Non, ça vaut tout à fait 1 milliard. Je pense que ça permet effectivement à Yahoo de regagner en croissance, hein, c'est le but affiché par Marissa Mayer, donc c'est quelque chose d'intelligent de sa part, c'est un pari risqué, donc ça me plaît plutôt à ce niveau-là, beaucoup le considèrent un petit peu comme un pari à la YouTube, probablement avec moins de résultats, parce que voilà, la vidéo a quand même grossi beaucoup depuis, c'est bien, Tumblr, comme tu le dis, je pense qu'en Europe, on se rend mal compte, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, de tout ce que j'ai entendu, tout le monde utilise Tumblr, moi j'ai, sans même vraiment utiliser beaucoup, j'ai peut-être 4 ou 5 blogs Tumblr que j'ai mis une fois ou l'autre en activité. C'est un excellent site et franchement, ils vont recevoir plein d'argent avec la vente d'Alibaba, donc autant l'utiliser.
Moi, je trouve que c'est un très bon achat. Je dois dire bravo à Yahoo. Je trouve qu'ils l'ont bien fait. Maintenant, c'est vrai que j'ai entendu ce débat sur Tumblr et la pornographie. Et finalement, il y a deux manières de consommer Tumblr. Tumblr, ça peut être un blog qu'on met sur son site web. Donc nous, on a par exemple sur ça, sur Niptech, à chaque fois qu'on met des quotes, on les met à travers Tumblr et elles apparaissent sur notre site web. Donc ça. Et il y a une manière de consommer les Tumblr à travers le site tumblr.com, comme un RSS feed. Et là, ils mettent de la publicité et ce genre de choses. Alors, il faut savoir qu'il y a une partie qui est consommable comme un blog et une autre partie qui est consommable comme un Facebook feed ou un Twitter feed. Et là, ben voilà, si tu t'abonnes à quelque chose de pornographique, tu reçois dans ton feed quelque chose de pornographique. Si tu t'abonnes pas, tu ne reçois rien. Donc, c'est là que j'entendais quelqu'un dire, je sais plus sur quel blog, mais un truc intéressant qui disait que c'est pas un problématique, le porn et Tumblr.
Ouais, d'ailleurs, Marissa Mayer a fait un article. C'est là qu'on voit que Marissa Mayer est vraiment une présidente pour Yahoo qui est complètement différente de ce qu'on a connu avant. Elle a fait un article sur le Tumblr de Yahoo, donc yahoo.tumblr.com, où elle a mis une gif animée où il y a Tumblr, Yahoo. Au début, c'est Keep Calm and Carry On, donc restez calme et continuez. Mmh. Et ensuite, c'est un truc qui clignote, c'est maintenant vous pouvez paniquer. Et elle a fait tout un article assez marrant où elle montre à quel point Tumblr est énorme et comment ils vont pouvoir l'utiliser. Et surtout que Tumblr va continuer à opérer de manière complètement indépendante. Et il s'y engage. Bon, on ne sait pas à quel point. S'il y a par exemple certains dans This Week in Tech justement évoquaient le fait que s'il y a du contenu copyrighté, le fait d'aller voir Tumblr directement, bah, on se fait peut-être fermer la porte au nez si on est un propriétaire de copyright. Si on va voir Yahoo, peut-être que Yahoo devra faire les choses de manière un petit peu plus propre. Mais bon, en tout cas, ils ont dit qu'ils feraient les choses de manière totalement indépendante. Et bon, c'est en même temps un petit peu, sans revenir entièrement sur la question du rachat de Dailymotion, mais on se dit, si aujourd'hui Tumblr, avec les moyens de Yahoo, va a priori pouvoir grossir encore plus qu'ils n'ont déjà grossi, et c'est quelque chose de véritablement important, et je me dis, en l'occurrence, ça aurait peut-être été positif pour Dailymotion aussi. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Facebook, alors la dernière fois que tu étais là, Ben, Mike, c'était pas toi qui représentais aussi Niptech, mais Mike, tu nous disais Facebook Home, j'y crois pas trop, il faut un cœur d'utilisateurs très convaincus, et là, Facebook Home sur Android, pour moi, ça va pas fonctionner. Et en l'occurrence, on a les premiers signes du fait que ça ne fonctionne pas. Alors, pour Facebook, ça, ne pas fonctionner, c'est quand même 1 million d'installations, donc c'est relatif. Mais ils sont déjà en train de revoir un petit peu leur copie, d'autoriser sur Facebook Home les interfaces, comment dire, le dashboard qui existe déjà sur Android avec ne pas entièrement remplacer tout le dashboard, etc. Le HTC First serait retiré de chez AT&T bientôt, etc., etc. Donc, ma question, c'est Benoît, est-ce que tu es fier de toi, du malheur de Facebook ?
Non, je ne suis pas fier. J'attends simplement un coup de téléphone pour rentrer au board de Facebook. Je pense qu'ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne un petit peu ça. Donc, je suis là. Vous me trouvez sur @bkurdi, hein, vous pouvez m'engager. Non, le truc, c'est que c'était assez évident qu'il y avait un problème d'utilisation de l'espace et qu'ils étaient beaucoup trop gourmands. Ça, je pense que on le voyait, mais la presse tech s'était enthousiasmée en voyant quelque chose de nouveau. Et puis, c'est un peu le problème de la presse, c'est que voilà, il y a un jour quelque chose de nouveau, ils sont contents, le lendemain, ils aiment plus. Quand on dit 1 million d'installations, il faut bien voir qu'on sait combien il y a d'installations, on ne sait pas combien il y a de désinstallations. Pendant longtemps, l'app a eu entre 2,2 et 2,3 étoiles. Je pense que c'est toujours le cas sur l'App Store. Donc, ça fait que la plupart des gens, en fait, ne gardent pas Facebook Home. Tu l'as dit, Patrick, en plus de ça, le HTC First est passé aux oubliettes. Bon, ce qu'il faut maintenant pour Facebook, c'est se remettre au travail et faire une nouvelle version et nous surprendre. Moi, je pense que c'est bien qu'ils aillent un petit peu ramasser, qu'ils comprennent à l'intérieur que les gens n'ont pas envie de vivre prisonniers dans l'écosystème Facebook et puis faire quelque chose d'un peu plus adapté.
Ouais. Donc, comme tu l'as très bien dit, je pense que c'est pas du tout la fin de Facebook Home. C'est juste qu'ils vont le retravailler et l'adapter un petit peu plus. Il y a beaucoup de gens. Enfin, un article intéressant disait que justement le problème venait du fait que la plupart des utilisateurs, enfin des ingénieurs de Facebook, utilisent principalement des iPhones et donc ils n'ont pas compris ce qui plaisait aux gens qui sont des utilisateurs d'Android. J'ai trouvé ça assez assez bien vu en fait. C'est très possible. Les utilisateurs d'iPhone sont des gens qui aiment des choses un petit peu trop simples. Liste peut-être pour les utilisateurs d'Android. Un autre sujet intéressant qui va faire bondir les fans du pingouin et du logiciel libre, la W3C, qui est l'organisme qui régule les standards du web, a approuvé ce qu'ils appellent les Encrypted Media Extensions, qui est en fait des outils qui permettent à n'importe qui d'intégrer des DRM dans le langage HTML du web. Alors, il y a eu beaucoup de débats. Certains disaient que, en fait, c'est une trahison du web et de l'esprit d'ouverture du web, parce que les DRM sont évidemment quelque chose satanique pour les fans les défenseurs de l'ouverture et du logiciel libre, ce que je comprends tout à fait. Il y a un article sur Ars Technica qui était très intéressant, où le journaliste expliquait justement que c'était Peter Bright, le journaliste, qui expliquait justement que, au contraire, c'est une véritable victoire pour le web d'avoir ces outils pour l'ajout de DRM, parce que en fait, le problème est que si on n'a pas de DRM, ça ne veut pas dire que les contenus arrivent sur cet écosystème délivrés de leur DRM. Ça veut juste dire que ces contenus n'arrivent pas. Et donc, l'avantage d'avoir ces outils, ça va être que les contenus vont arriver sur le web, certes avec des DRM, peut-être, et on l'espère, avec des DRM au début, et puis au fur et à mesure, quand les propriétaires de contenus seront un petit peu plus à l'aise avec la chose, peut-être qu'ils se débarrasseront un petit peu plus des DRM comme ils l'ont fait sur iTunes. Mais en tout cas, ça va permettre au web de se développer véritablement et de devenir une solution solutions alternatives pour énormément de types de d'utilisation pour lesquelles c'était assez difficile encore aujourd'hui, ou pour lesquels il fallait utiliser des logiciels propriétaires comme Flash ou Silverlight ou ce genre de choses, parce que une fois qu'on peut mettre ce type de protection de contenu dans le HTML5, le HTML5 devient une solution idéale pour tout. Et on le voit aujourd'hui, le HTML5 est de plus en plus capable de faire énormément de choses, et il y a la menace des apps qui sont en concurrence, on va dire, avec le web. Et donc, si on n'avait pas cette arrivée du contenu, les apps pourraient devenir plus importantes et trop importantes. Et les apps sont justement beaucoup plus contrôlées, beaucoup plus fermées que le web. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que ces outils de Encrypted Media Extension sont en fait une victoire pour le web et vont permettre au web de continuer à s'étendre, voire même à devenir le standard par défaut pour tout le monde et pour tout. C'est de la propagande ou vous y croyez, monsieur ?
Moi, je crois que c'est bien. Alors, on aime ou on n'aime pas les DRM. Après, libre à nous de pas télécharger de la musique s'il y a des DRM, et si on la veut pas avec des DRM, on télécharge pas cette musique-là. Je veux dire, c'est notre droit de consommateur. Maintenant, je mets hors la musique et je pense à d'autres choses comme les images. Il y a pas mal d'images qui sont utilisées ou qui sont sortis de leur contexte pour des marques, par exemple, où des gens utilisent leur image sans leur demander, ou alors pour des gens qui ont créé des photos, des choses comme ça, qui ne peuvent pas le réglementer sur le web. Alors, comment maintenant on fait? Ben voilà, on doit demander à l'ISP d'enlever ses images de son serveur, ce genre de choses. Alors que je pense qu'avec des DRM et une façon facile de les mettre en place, ça permettrait de protéger la création de certaines personnes. Et après, libre aux gens de pas les télécharger, libre aux gens de pas les utiliser.
Alors là, je te rassure, je vais te ressortir l'argument dont tu me parlais pour le CSA. Les DRM, même sur le web, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne vont pas empêcher le piratage. Il suffit de faire une capture d'écran ou un truc comme ça pour l'image. Et en l'occurrence, je pense que effectivement, c'est pas tant. Le piratage existera toujours de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas tant pour une question de piratage. En fait, c'est juste pour que les propriétaires de contenu soient suffisamment à l'aise, ou en tout cas aient une excuse pour être à l'aise et pour faire venir leur contenu véritablement dans des applications web. Et c'est là que c'est la clé. Le piratage, de toute façon, DRM, pas DRM, de toute façon, il existe en libre quoi qu'il arrive. Donc, autant faire les choses aussi, rendre les choses aussi attirantes que possible et attirer les gens qui veulent mettre leur contenu quelque part, en leur donnant la possibilité d'avoir des DRM. Il y aura aussi des versions sans DRM, quoi qu'il arrive. Donc,
Là, comme Larry Page, je suis en parfaite harmonie avec vous.
Magnifique. Écoutez, on a d'autres sujets dont on pourrait parler. Il y a un ex-employé de Google qui parle des techniques d'évasion fiscale en Angleterre. Il y a Strongbox qui est une sorte de Wikileaks pour le New Yorker, une publication américaine bien connue. Faisons un petit peu plaisir aux fans du pingouin. La station spatiale internationale passe de Windows à Linux pour avoir un petit peu plus de stabilité dans leur système. Donc ça, c'est un bon point pour un truc qui fera plaisir à nos amis les libristes, etc. Il y a d'autres sujets dont on pourrait parler. Le sujet avec lequel j'aimerais terminer, c'est une chose qui est intéressante, c'est le fait que Iliad, donc la société mère de Free, soit en énorme forme encore aujourd'hui, suite à leur arrivée sur le marché de la mobilité. Ils sont en très très bonne forme. Ils ont un chiffre d'affaires de presque un milliard d'euros, qui est en hausse de 38% sur un an, évidemment grâce à l'arrivée de la mobilité, etc. Tout va très bien chez Iliad. Donc, entre parenthèses, le fait qu'ils ne puissent pas payer pour YouTube, ou qu'ils n'aient pas l'infrastructure nécessaire pour les vidéos de YouTube, ça me fait doucement rigoler. Et donc, je voulais en parler, en tout cas. C'est très très bien pour Free, hein, bravo à eux. Mais ils ont réussi à faire d'excellents chiffres malgré mon départ, et là ça m'attriste quand même un petit peu. Je voulais juste dire que j'ai pas que de la gueule, souvent oui, mais là là non, en l'occurrence, j'ai quitté Free Mobile et j'ai quitté Free ADSL. Je suis en passe de faire ma résiliation. Je suis allé chez OVH pour l'ADSL. Je suis chez Pritel pour la mobilité sur mon téléphone et chez Joe sur la mobilité pour ma tablette. Donc je couvre un petit peu tout le
comment dire
le spectre. Voilà, merci. Mais simplement pour dire que j'en parle dans un upload aussi, mais Free avait une politique qui ne me convenait pas. Et plutôt que de juste me plaindre, bah, j'ai décidé simplement d'aller voir ailleurs. Je suis notamment chez OVH, comme je le disais, pour mon ADSL. OVH et Numéricable, hein, j'ai les deux. Parce que ils ont inscrit dans leur charte le respect de la neutralité du net. Et là, on reparle du net libre et ouvert et vraiment le net tel qu'il est conçu. Et à mon sens, la neutralité du net, j'en ai suffisamment parlé dans l'émission, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, je pense que voilà, il est aussi important que si on a une valeur ou quelque chose qui nous semble, bah, comme je le disais, important, il est aussi essentiel qu'on mette en action ce qu'on dit. Donc là, en l'occurrence, bon, bah, je l'ai fait et j'ai quitté Free. Ça, comme je le disais, ça m'attriste beaucoup parce que Free a fait énormément, c'est ceux qui ont fait le plus pour la technologie et l'internet en France. Mais bon, sur ce coup, j'ai été très très déçu. Donc bon, c'est peut-être un petit coup d'épée dans l'eau, mais je voulais simplement le signaler et féliciter OVH parce que ils ont le respect de la neutralité du net. C'est une boîte que j'aime de plus en plus. Bref, Iliad va très bien, c'est très bien pour eux et on les félicite d'être effectivement l'une de ces sociétés françaises tech qui réussissent dans ce domaine. Donc c'est quand même malgré tout quelque chose de positif. Bon, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, messieurs de Niptech.
C'est toujours un plaisir, donc j'aime bien les débats, j'aime bien les différentes problématiques, en plus c'est une bonne compréhension, donc non, c'est toujours avec grand plaisir.
Bah écoutez, absolument. Ça me fait plaisir de vous recevoir, c'est presque tous les deux mois en fait maintenant, hein. Il va falloir que je vous mette dans l'agenda presque. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, d'où vous venez, ce que vous faites dans le monde des podcasts et où on peut vous retrouver?
Allez, vas-y Mike.
Allez, j'y vais, allez. Ben voilà, alors ben, on a un podcast qui s'appelle Niptech, Niptech sur niptech.com, vous pouvez nous retrouver. Alors bien sûr, on n'est pas tout seul, hein. Il y a Ben, il y a moi, il y a le prof du web, il y a encore Fabrice, et j'en oublie un.
Johan.
Johan, pardon.
Comment peut-on oublier Johan?
Ouais, c'est pas bien ça, il va me tirer les oreilles. Voilà, et alors on fait un podcast chaque semaine qui parle de tech en live, 21h tous les mardis, donc demain. Et donc voilà, vous pouvez nous retrouver soit sur Niptech Podcast sur Twitter ou sur Google Plus, vous tapez Niptech et puis Ben, vous le retrouverez sur BCurdy, donc BCURDY sur Twitter, et moi c'est Syde, SYDE.
Et peut-être encore un petit complément, je pense qu'on est vraiment le parfait complément au Rendez-vous Tech. Quand vous écoutez le Rendez-vous Tech, vous comprenez les tendances de fond, vous avez vraiment ce qui se passe dans la société, etc. Nous, on est peut-être un petit peu plus léger, un petit peu plus sur les bords, l'innovation, les startups, les choses qui commencent à émerger. Et si vous écoutez, si vous faites le combo, alors là, je veux dire, à la cafétéria, juste la tech imbattable.
Et absolument, c'est vraiment le podcast de l'innovation. Bah d'ailleurs, c'est votre slogan, innovation, start-up, innovation, inspiration.
Voilà.
C'est ça ? Oui. Exactement. Ouais. Donc oui, pour tout ce qui est, si vous êtes un petit peu intéressé par le monde des start-up et une vision un petit peu plus entrepreneuriale de la tech, Niptech est le podcast qu'il vous faut. Bah écoutez, on arrive donc à la fin de l'émission. Je vais tout de même vous rappeler que sur le site nowatch.net, même s'il ne lui reste plus que un gros mois, il y a tout de même des podcasts très intéressants que vous allez pouvoir aller découvrir ou redécouvrir. Vous pourrez aussi évidemment voir les commentaires de l'émission en cours et des émissions précédentes. Vous aurez les liens vers nos réseaux, nos comptes sur les réseaux sociaux. Moi, en l'occurrence, c'est NotPatrick sur Twitter. C'est toujours le réseau social que je préfère. Et voilà, donc on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. J'espère que vous avez apprécié celui-ci et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Grosse bise à tous. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.